Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Merci de nous rejoindre. Cette émission spéciale est dédiée à la culture, au rôle de l'artiste contre l'obscurantisme aussi. Nous sommes aux confins de plusieurs réalités, hélas, aujourd'hui, après un rassemblement très fort dans plusieurs villes de France, en hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui enseignait la laïcité, la liberté d'expression et qui est mort décapité d'avoir justement porté ces valeurs de la République. Jean-Michel Ribes, vous nous accueillez au Théâtre du Rond-Point avec cet aréopage d'artiste qui est là pour témoigner à la fois de ce qui va mal, mais on essaie de trouver ensemble des solutions. Le rôle de l'artiste aujourd'hui, en 2020, en France, quel est-il pour vous, Jean-Michel Ribes ?
Le rôle de l'artiste, c'est, à mon avis, de creuser les galeries vers le ciel, comme disait Aragon, c'est-à-dire, c'est de casser l'espèce de ronron, l'espèce d'habitude, l'espèce de formatage qui fait que la société devient un endroit sclérosé, où on ne sort plus, on est avec les gens qui savent, on est avec les morales définitives, on est avec le formatage. Le rôle de l'artiste, c'est de montrer qu'il y a des issues de secours, qu'il y a des fenêtres où on respire, qu'il y a des endroits magnifiques. Et je veux dire que je trouve que les artistes, en général, le théâtre, évidemment en particulier, c'est aussi un lieu de réanimation.
C'est joli, Patrick Peloux nous a quittés, mais il aurait pu tout à fait témoigner de la même chose. Christelle Chollet, bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Vous êtes comédienne, chanteuse, humoriste, directrice aussi du théâtre de la Tour Eiffel à Paris, dans le 7e arrondissement. Alors vous vous adaptez comme beaucoup, mais si je vous pose la même question, sur l'essence même de votre mission.
Mais je crois que je paraphrase ce que dit Jean-Michel, c'est tout simplement aussi rendre les gens heureux. C'est-à-dire que les gens, et surtout dans un théâtre pour du spectacle vivant, il y a qu'à cet endroit-là qu'on a une liberté totale, qu'on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas de censure quand on est sur scène, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5. On est là, on dit ce qu'on pense, on fait rire les gens, on les fait pleurer. En tout cas, ils ont des émotions et toutes ces émotions font en sorte qu'ils sont heureux, qu'ils peut-être oublient ce qui se passe en ce moment. Mais il y a une vraie, il y a une vraie catharsis là-dedans. Il y a quelque chose qui nous unit, le public et l'artiste, de toute façon. Et vous pouvez prendre un spectacle, le mettre dans une salle de théâtre. Le lendemain, vous faites le même spectacle, le même artiste, avec les mêmes gens, à la même place, dans le même théâtre. Il se passera jamais la même chose.
Bien sûr.
Jamais.
Encore faut-il que vous soyez heureux. C'est bien la question qu'on a envie de vous poser, hélas, au cœur de cette crise. Bonsoir, Stéphane Grus.
Quoi ?
Vous êtes un grand artiste. Vous êtes écuyer, jongleur, voltigeur, fils d'Alexis Grus. Et vous dirigez artistiquement la compagnie Grus aujourd'hui. Vous êtes combien sous votre chapiteau ? Combien d'artistes ?
Ben, en piste, on est une quinzaine. Mmh. Et depuis quelques années, on a recentré essentiellement notre travail artistique sur la famille, parce que j'ai la chance d'avoir une famille d'artistes fabuleuse avec mes parents, mes enfants, et puis maintenant, il y a les compagnes, il y a mon beau-frère, etc. Et donc, on a cette chance de pouvoir créer cette troupe familiale d'artistes exceptionnels. Mais il y a surtout cette cavalerie avec
50 chevaux.
Voilà,
à tenir, à nourrir, à soigner.
Nous n'avons pas fait de spectacle depuis le 23 février.
Et ça, c'est une catastrophe, évidemment, parce que Dieu sait si le cirque, comme vous le pratiquez, donne des émotions, du rêve à toutes les générations sous un chapiteau. On est comme dans une salle de spectacle. Or, vous tombez sous un autre coup terrible. C'est qu'aujourd'hui, les spectacles sous chapiteau sont interdits. Pour la lutte contre le coronavirus.
Ah oui, cette interdiction tient normalement jusqu'à lundi. Mmh. Donc ça nous a empêché de lancer notre saison qui devait démarrer donc hier le 17. Et donc c'est une grosse campagne d'affichage. C'est ma famille qui a travaillé pendant 6 mois sur cette nouvelle création avec toute une nouvelle équipe artistique.
Donc
un investissement énorme. Et c'est vrai que rater le lancement d'un spectacle, hein, tous les gens ici autour de la table doivent le savoir, ça peut être catastrophique pour la suite. Et voilà, ben on espère que les choses vont pouvoir enfin démarrer. Et donc on a reporté déjà d'une semaine, mais dans une incertitude absolue.
Absolue. Vous allez nous en dire davantage de ce rêve que vous partagez, Christelle Chollet, Stéphane Grus. Dans ce monde du cirque qui va très mal, Denis Gravaux, vous qui êtes secrétaire général de la CGT Spectacle. On a vu mourir le cirque Plume. 30 ans de spectacle à Besançon, partout dans le monde, le cirque s'est éteint. La faillite du Cirque du Soleil, vendu aux enchères, qui a licencié 3500 acrobates et techniciens. Ça, c'était impensable pour vous il y a quelques semaines encore,
oui,
par exemple.
Là, on fait face à une catastrophe qui est double ou triple. C'est une catastrophe, ça a été dit. Bon, j'étais aussi place de la République tout à l'heure, parce que, comme toujours, les terroristes islamistes, ils se sont attaqués à un journal avec des dessinateurs, des journalistes, le Bataclan, faut pas oublier le Bataclan, et puis maintenant un prof. Ils s'attaquent pas, par exemple, à des terroristes d'extrême droite qui les ont attaqués à nous en Nouvelle-Zélande ou à Biarritz. Ils s'attaquent à nous tous qui faisons ce lien, c'est ce travail-là. Bon, et puis par ailleurs, effectivement, c'est une catastrophe économique et c'est une catastrophe derrière pour des centaines de milliers milliers de personnes qui travaillent dans, souvent dans des conditions précaires, hein, faut quand même le rappeler, parce que là, tout s'est arrêté. J'entends bien ce que vous dites dans le cirque. Et dans le cirque, on sait que c'est un travail à très long terme, qu'il faut énormément de temps pour monter un spectacle. C'est un travail d'athlète. C'est un travail, et bon, c'est valable pour les gens qui sont dans la musique aussi, qui doivent répéter toute leur vie. Et ne pas pouvoir exercer alors qu'on travaille, parce que on a dit qu'on travaillait pas. On ne travaillait pas que les spectacles ont été fermés, mais les gens ont continué à travailler parce qu'il faut continuer à entretenir cette question-là. Et donc, comment on fait? Et c'est absolument pour ça qu'il faut qu'on aurait fallu qu'on ait Mme Bachelot jusqu'au bout, qu'il y ait des propositions. On nous annonce abruptement le couvre-feu depuis mercredi, et pour l'instant, on a plein de propositions à faire, nous, pour dire comment on peut faire. Ça a été dit sur la date, l'heure du couvre-feu, mais il y a aussi des propositions pour accompagner les structures, qui sont souvent très petites, pour pas qu'elles disparaissent.
Bien sûr.
Et puis qu'on ne supprime pas les emplois et l'activité des autrices et des auteurs, ce qu'on oublie aussi de parler des autrices et des auteurs
absolument.
Qui sont dans la même situation dramatique que les artistes, les techniciens et tous ceux qui bossent sur les spectacles et les salles de cinéma.
On va y venir, mais j'aimerais que vous nous racontiez comment concrètement, vous, par exemple, Stéphane Grus ou Christelle Chollet, bien vous avez continué à bosser sans savoir de quoi demain serait fait. Vous dirigez un théâtre, donc ce sont des charges énormes. Vous avez des spectacles à porter, vous avez une famille à nourrir, Christelle Chollet. Comment vous avez fait? À quoi vous avez pensé?
Famille. Pas aussi grande que celle de Stéphane, mais une grande famille.
À quoi vous avez pensé?
On s'adapte parce que c'est notre métier aussi que de s'adapter. Il faut faire le caméléon dans ces cas-là. Et puis surtout, l'urgence, c'est d'être là et de jouer. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des billets en avance et qui veulent venir voir les spectacles. Donc on se doit d'être là. Et puis nous, notre vie, elle est sur scène, elle est là. Et on ne peut pas faire autrement. Donc qu'est-ce qu'on fait, on s'adapte avec nos équipes. C'est pas aussi simple comme Monsieur Macron l'a annoncé l'autre jour en disant on va mettre les spectacles à 19h, comme ça on va faire d'autres séances. Mais ça se passe pas comme ça en fait, parce que dans certains théâtres, il y a déjà plusieurs programmations. Donc moi par exemple dans mon théâtre personnellement, j'avais une programmation à 19, une à 21 et des spectacles pour enfants qui arrivent lors des vacances. Donc comment je fais? Ce que je fais, c'est que je sacrifie évidemment avec l'aval de l'artiste et de son producteur la séance du 19h pour mettre le 21h à la place. Donc c'est pas aussi simple, on claque pas des doigts. Donc effectivement, je crois que il y a pas assez d'avis d'avis généraux sur comment et sur le fonctionnement, parce qu'on ne sait pas comment fonctionne notre métier en fait. Voilà, avec les équipes, c'est pas aussi simple que ça de dire aux gens votre billet il était à 21h, vous allez venir à 19h. Non, il y a des équipes toute la journée qui sont là, qui appellent tous les revendeurs, parce qu'il y a énormément de revendeurs qui leur disent attention, vous allez appeler telle personne, parce que nous on n'a pas les numéros des gens. Donc c'est un puits sans fond, mais on essaie de s'accrocher et puis d'avoir des bouées, de faire ce qu'on peut, voilà.
Et vous avez votre spectacle, par exemple, Christelle Chollet, numéro 5, qui arrive dans votre théâtre le 5 décembre. Donc ça, vous arrivez à le maintenir parce que vous êtes seule avec vos artistes, vos musiciens. Il reste à la programmation,
oui,
19h.
Oui, reste à la programmation. Mais je voulais dire aussi, je crois que Nicolas Briançon en a parlé tout à l'heure, il y a une chose très très forte, c'est l'envie qu'ont les gens de venir dans les salles, de rigoler, d'avoir des émotions et d'être là avec nous. Donc on se doit d'être là et puis on sera là.
Merci Jean-Michel Ribes et Stéphane Grussoff.
Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que moi, j'avais essayé de trouver une idée lors du premier confinement, c'est de faire du théâtre dans les jardins, le rond-point dans les jardins, de 6h30 à 7h30 pendant un mois. Et c'est ahurissant. Ça avait 600 personnes qui faisaient la queue à partir de 4h l'après-midi. C'est-à-dire ce désir de rendre, parce que le vivant face au vivant, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vrai qu'il y a un vrai désir du public. Et moi, je vois bien, là, on est en tournée avec la pièce de Rémi Devos, Cadoc, on passe dans toutes les villes en ultra écarlate, c'est-à-dire Lille, Toulouse, et là, on va à Marseille. C'est archi plein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en effet, qui est une nourriture, qui est un espoir, qui est un ailleurs, qu'on apporte aux gens, une respiration. Ils en ont besoin. C'est-à-dire que la fiction, c'est quand même une réalité qu'on leur offre, qui est autre que celle dans laquelle ils vivent.
Bien sûr. Quand on a une famille, une grande famille d'artistes, d'acrobates, de jongleurs, d'écuyers, Stéphane Grus, comme la vôtre, à quoi on pense comme solution annexe et alternative, en dehors du chapiteau, j'allais même dire, je parlais des écoles tout à l'heure, est-ce que aller justement faire produire des petits spectacles dans les écoles, est-ce que à tout ça vous pensez finalement pour vous adapter comme caméléon que vous êtes?
Ça fait des années qu'on essaie de s'adapter, et ça depuis que mon père nous a laissé complètement les rênes avec mon frère Firmin, donc qui lui a la gestion, moi la direction artistique, et à ma sœur Maud qui elle s'occupe de toute la gestion des chevaux, parce que c'est aussi une grosse organisation de pouvoir gérer ça toute l'année. Mais on essaye de se réinventer. L'année dernière, on a créé un nouveau concept, les Folies Grusses. Voilà, Folies Grusses, où on permettait aux gens de passer une soirée complète, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir se restaurer sur place, ils rencontraient les artistes dès l'arrivée, on faisait des animations pendant le repas, ensuite il y avait un spectacle On a adapté encore une fois la formule, c'est-à-dire 1h15, 1h20 de spectacle. Et après le spectacle, encore une fois, une rencontre avec les artistes, quelque chose de très festif, justement, parce qu'on sait que dans notre milieu, si on ne se réinvente pas, si on ne se remet pas en question. Et en plus, la création, c'est vraiment le moteur de notre famille. Nous, depuis 6 générations, on a ce savoir-faire qu'on fait évoluer et on aime à chaque fois repousser les limites et surprendre notre public.
Oui.
Donc voilà, c'est vrai qu'il faut tout le temps se remettre en question, mais là, ça fait quand même... tout le travail qu'on a fait cet été, dès le premier confinement, qu'est-ce qu'on a dit ? On va se donner à fond dans le spectacle. Déjà, on a dû les enseigner.
Donc, vous vous leviez le matin parce que vous levez très tôt dans les familles de cirque parce que
vous savez, ils ont besoin qu'on s'occupe de tous les jours.
Toujours.
Et puis voilà. Donc, en plus, dans la cavalerie, il y a plein de générations. Il y a des jeunes, il y en a qui sont en pleine force de l'âge, il y en a qui sont un peu plus âgés, mais on les garde avec nous tout le temps.
Et qui font l'école à domicile,
scrupuleusement.
Ouais.
Et donc, il y a toute cette période aussi à Piolenc où on accueille les écoles. Donc, on l'a perdu cette année. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de pouvoir ouvrir les portes, de montrer un petit peu notre travail, comment on évolue, comment ça apporte aussi aux spectateurs de pouvoir découvrir le travail qui est fait en amont du spectacle. Et voilà, je crois que cette année, toute l'équipe, on s'est entouré en plus d'une toute nouvelle équipe artistique, justement pour encore une fois se renouveler et proposer quelque chose de nouveau. Et donc c'est pour ça qu'on espère que ces nouvelles folies grusses, là, version 2, vont pouvoir d'abord pouvoir être jouées et surtout que le public sera présent.
On vous le souhaite de tout cœur, Stéphane Grus. Arnaud Meunier, nous sommes avec vous du côté de Saint-Étienne, vous qui êtes directeur de la Comédie de Saint-Étienne. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Se réinventer, c'est aussi développer des partis pris différents pour le théâtre. C'est le cas de votre compagnie La Comédie qui développe aussi une politique de théâtre itinérant depuis quelques années en milieu rural, dans les quartiers aussi. Vous vous êtes beaucoup appuyé sur ce développement-là justement en vous disant on peut peut-être sortir justement du théâtre et des contraintes sanitaires qu'on nous met dans l'enceinte d'un espace clos.
Disons que l'ADN de la Comédie de Saint-Étienne, il est itinérant, puisque Jean d'Asté, qui était un pionnier de la décentralisation, a commencé en venant avec sa troupe, en jouant sur les tréteaux, en allant dans les villages. Donc, aujourd'hui, on ne fait que perpétrer, d'une certaine manière, ce chemin-là, en essayant tout le temps de le réinventer. Après, évidemment, que le confinement nous a amené à tous à réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait maintenir un lien au public, et que ce lien au public soit pas forcément numérique. Que ce soit pas uniquement des vidéos en ligne, c'est qu'il y a beaucoup de théâtres qui ont été tentés de mettre des captations de spectacles en ligne sur Internet. Et nous, on a cherché à maintenir du vivant, comme disait Jean-Michel tout à l'heure. Donc maintenir un rapport de l'instant. Et c'est vrai que les publics nous ont beaucoup demandé ça aussi. Nous, on est très très frappés de voir à Saint-Étienne à quel point le public répond présent. D'abord, il nous a soutenus. C'est vrai que beaucoup de spectateurs ont renoncé à se faire rembourser les billets pendant le premier confinement. Et aujourd'hui, ils sont présents, avec des limitations de jauge, bien sûr, mais présents. Donc la nouvelle étape pour nous et le nouveau défi maintenant, c'est ces représentations avancées qui commencent juste après les vacances de Toussaint. Et on va voir comment ça va se passer.
Au niveau des abonnés, vous à Paris, Jean-Michel Rey, au théâtre du Rond-Point, vous en avez perdu beaucoup cette année.
C'est-à-dire qu'on a eu un réflexe de solidarité incroyable, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont abonnés, mais surtout sur les 10
spectacles.
Oui, mais surtout sur les 10 spectacles qu'on a obligé d'annuler, qui étaient déjà réservés avec des places payées, etc., 75% des spectateurs qui avaient donc acheté leur billet nous ont demandé de ne pas les rembourser par solidarité avec nous. C'est absolument exceptionnel. Et je voudrais dire à Arnaud, on l'attend avec une grande impatience. On a un très beau spectacle de Laurent Meuvignier qui arrive ici. Ça s'appelle Tout mon amour et on t'attend, Arnaud.
Arnaud Meunier, qu'on retrouve dans un instant. Depuis Saint-Étienne, Pierre Guillois sera avec nous aussi. Il nous parlera de la direction de compagnie dans ces moments perturbés. On se retrouve dans un instant. Christelle Chollet, Stéphane Grus, Denis Gravouille et Jean-Michel Ribes depuis le théâtre du Rond-Point. Émission spéciale jusqu'à 20h, 19h30.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Le spectacle vivant, la culture en question, la liberté d'expression dans les théâtres, jusque dans les écoles. Nous sommes au cœur de différentes actualités au Théâtre du Rond-Point. C'est Jean-Michel Ribes qui nous accueille dans son théâtre entre les Invalides et pas très loin du palais de l'Élysée. Et on est là pour vous donner la parole, chers amis artistes. Stéphane Grus avec nous, notamment pour la famille du cirque, Arnaud Meunier pour le théâtre La Comédie de Saint-Étienne, Pierre Guillois qui va nous parler de la compagnie, le fils du grand réseau, Christelle Chollet est avec nous. Un petit mot avant de vous libérer, Denis Gravouille sur le nombre d'artistes, l'ampleur des professionnels du spectacle. touchés par cette crise du coronavirus? Est-ce qu'on est capable justement d'en mesurer l'ampleur?
Ça dépend des si on, comment on le prend de façon court ou large, mais en gros, ça peut toucher jusqu'à 600 000 personnes qui sont dans les emplois sont menacés. Alors évidemment, il y a à peu près
combien d'intermittents en France?
Les intermittents du spectacle, c'est à peu près 120 000 personnes régulières, mais un peu plus qui en prend les jeunes qui n'ont pas pu rentrer. Hein, il y a quand même, il faut dire aussi que toute la génération des jeunes qui s'apprêtaient à pouvoir travailler et autres qui se sont fait briser dans leur élan, ils ont été complètement oubliés par le gouvernement. Oui. Donc c'est 600 000 personnes, 120 000 intermittents, et sans oublier les autrices et les auteurs qui sont quand même pas l'assurance chômage pour ceux qui l'ont eu, puisqu'il n'y a pas d'assurance chômage pour les autrices et les auteurs. Donc c'est une catastrophe absolue si on ne fait rien et si on ne prend pas la crise dans sa durée. Comme on le dit depuis le printemps, c'est pas une affaire de quelques semaines, c'est une affaire de s'adapter sur un an, deux ans, peut-être trois, et là ça nécessite des mesures autrement plus importantes que ce qui a été annoncé par Roselyne Bachelot tout à l'heure.
Oui, merci beaucoup Denis Gravouillet. Bon,
et
bon
pas
courage.
Que alors, Christophe Chollet. Et effectivement, c'est catastrophique pour le milieu du spectacle, mais il faut savoir que quand on vend le théâtre, tous les spectateurs le savent. Après, ils vont au resto. Après, exactement. Avant, ils amènent une bouteille, un chocolat. Enfin, voilà. Moi, j'ai croisé mon chocolatier à côté du théâtre qui m'a dit, mais c'est une catastrophe, on vend plus rien. Il y a plus personne qui passe. Donc voilà, c'est nous, mais c'est un cercle qui s'agrandit de plus en plus. J'ai l'impression.
Bien sûr, l'événementiel. L'événementiel aussi. Hein. Jean-Michel Riboufette, vous louez votre salle, votre théâtre parfois pour de grands événements. Ça, c'est fini.
Ah oui, on n'espère pas parce que qu'on continue à lutter, à le faire l'après-midi. Moi, je me demande s'il faut. Il y a des cafés-théâtres et je ne me demande pas. Je vais essayer de faire ici à midi un restaurant-théâtre. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer.
Bien, on aime bien que vous lanciez des idées comme ça et surtout que vous les concrétisez parce que c'est votre style. Hein, ça,
Jean-Michel. Plus de 6 à table, Jean-Michel.
Alors, le monde du cirque sous chapiteau, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que vous êtes si durablement touché et impacté, Stéphane Grus. C'est que vous faites à la fois des grands événements, vous faites des spectacles pour des entreprises, des séminaires, des écoles. Pour l'instant, exactement, tout ça aussi est suspendu, malheureusement.
Notre saison parisienne, nous, il y a trois périodes. Il y a bien sûr le tout public. Mmh. Ça, c'est ce qui est le plus important avec notre nouvelle création. C'est ce qu'on devait lancer hier et donc qu'on va essayer de reporter à la semaine prochaine. Ensuite, bien sûr, il y a l'événementiel, parce que nous, on a un chapiteau qui est magnifique, avec des aménagements, avec des tentes annexes pour les réceptions, et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus d'année en année, c'est-à-dire qu'on accueille des grandes entreprises qui viennent faire leurs séminaires, et nous, on leur fait toujours un spectacle, c'est vraiment à la carte. Et il y a aussi la partie CE, pendant la période de Noël, où là, les CE choisissent de venir voir nos spectacles. Et ça, toutes ces choses-là doivent être complètement réinventées, repensées, pour pouvoir s'adapter.
Oui,
C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer.
Bien sûr, et c'est pour ça que c'est important que vous nous exposiez aussi vos vies professionnelles. Bonsoir Pierre Guillois.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous également, acteur, metteur en scène et auteur, parce qu'on parlait des auteurs, notamment de la pièce Bigre, Molière 2017, du meilleur spectacle comique. Vous êtes aussi directeur de compagnie. Et vous connaissez bien le terrain pour sillonner les territoires. Comment vous palpez ce moral et comment vous trouvez aussi l'énergie de vous réinventer dans cette actualité?
En effet, c'est compliqué parce que on dépend en tant que compagnie, on a une compagnie qui tourne énormément, on dépend beaucoup des programmations, des théâtres, et donc l'expectative de la fermeture ou de justement des réductions d'horaires, on dépend complètement de ça en fait. Donc ça, c'est la grosse difficulté des compagnies quand on tourne comme ça. Et puis pour se réinventer, eh bien dans un premier temps c'était très difficile, je trouvais les premiers mois. Là on a un peu sauté sur l'occasion de la proposition de Jean-Michel Ribes d'aller faire des choses dans les jardins. Alors avec Olivier Martin Salvan, on a créé un spectacle de rue qu'on va continuer à faire dans la rue. Donc ça c'est un petit peu l'occasion qui a fait le larron et qui permet de développer tout d'un coup parce que le rond-point sort dehors et nous ça nous fait sortir dehors et ça nous permet de développer quelque chose. Donc c'est peut-être les bons côtés aussi de cette crise.
Bien, on vous le souhaite et on va en parler justement de cette itinérance et de ce côté extérieur plein air avec les festivals qui seront à la fête dans un instant.
Et n'oublie pas Pierre que tu reviens terminer ce spectacle de rue dans nos salles.
Ah oui.
Oui, on va faire de la salle en hiver et de la rue l'été.
Merci beaucoup.